La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici à l'Oratoire du Louvre pour ce culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Merci à toutes celles et ceux qui rendent possible dimanche après dimanche ce moment de rendez-vous avec cette parole que nous allons prêcher ce matin et qui nous rappelle que peut-être une part de cette parole est tellement intime qu'elle est difficilement possible à partager. Nous allons donc parler aujourd'hui de mystique et vous verrez que la liturgie va être émaillée de textes qui sont issus de cette tradition particulière de la théologie. Je vous invite pour commencer ce temps de culte à nous réunir par le chant avec les réponses qui sont au début du psautier français. Et vous trouvez la liturgie. Et c'est Sœur Hakim qui est à l'orgue ce matin et qui nous a introduit dans ce temps de culte. Merci Sarah. Nous louons Dieu avec cette louange d'un philosophe, poète et mystique soufi. Mille amoureux te désirent, nul mortel n'a pu te voir. Mille amoureux te désirent pourtant. Il n'est pas de rossignol qui ne sache que dans le bouton dort la rose. L'amour est là, où la splendeur vient de ton visage, sur les murs des monastères et sur le sol de la taverne, la même flamme inextinguible. Là où l'ascète enrubanné célèbre Allah, nuit et jour, où les cloches de l'église appellent à la prière, où se trouve la croix du Christ, mille amoureux te désirent. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 25, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir, pardon. Écoutons la volonté de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, un pharisien demanda à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit alors, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La loi. Écoute. Quelqu'un t'appelle et dit ton nom. Écoute, il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à l'exclusion, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif, un artisan de paix et de justice. Écoute. Toi qui es là ou au loin, ouvre la porte à celui qui frappe. Ouvre la porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute, il te dit de t'aimer, d'aimer les autres et le monde et Dieu et la vie et l'éternité. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et je vous invite maintenant à entendre cette prière de Judas Halevi, philosophe et médecin juif dans l'émirat de Saragosse. Qu'à mes yeux tes voies sont belles et me sont chers tes chemins, sans obstacle ni embûche, rien n'y est tortueux ni trompeur. Je n'ai pu m'avancer sur tes routes que tirées par tes liens. Mon espoir est en toi et mon aspiration. Tu es le rocher de mon cœur, la source de ma vie. Mon œil voudrait contempler ta majesté, mais un être comme moi n'en est pas digne. Quand j'aspirais à te voir, je me tenais au seuil de ta demeure. J'ai subi le poids des péchés de mon peuple, incliner mon épaule sous le fardeau de ses souffrances. Je n'ai pas tendu mes mains vers une divinité étrangère, car nul que toi n'est venu à mon secours. Si j'étais esclave, c'est à cause de ma croyance en toi, et je n'ai servi personne d'autre que toi. Mon bien-aimé, pour qui ma main se tend vers le haut, et mes yeux s'élèvent vers les cieux, en toi sont ma force et ma forteresse. Même si tu m'anéantissais, j'espérerais encore en toi. J'ai subi ta colère, mais en toi j'ai mis mon espoir. Mon âme s'est efforcée de te servir. Elle s'est accrochée aux ailes de ton amour. Toutes tes colères ont passé sur moi, mais mon âme n'a pas oublié ta bonté. Je me suis fortifiée grâce à ton alliance. Oh, combien j'ai aimé la Torah. Thank you. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles que nous pouvons accueillir. L'Éternel Dieu vit en nous, que son esprit nous anime. Sa force transforme notre faiblesse. Sa miséricorde nous relève de notre misère. Sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Il nous redit ce matin, « Ma grâce te suffit ». Je vous invite à confesser ensemble notre foi avec cette proposition ce matin. Je crois que tu es le Dieu un, le même hier, aujourd'hui et demain. Je crois en ton amour unique pour tous les êtres humains. Je crois que nos religions sont nos langues pour dire la grandeur et ta gloire. Et je crois que si j'étais née en d'autres temps ou d'autres lieux, j'aurais une autre langue pour dire ma foi en toi. Mais je crois que tu serais toujours Dieu pour moi. Je crois en une amitié entre les croyants toujours possible, en un dialogue entre les chercheurs de vérité toujours possible, en une paix entre les religions toujours possible. Je crois en une liberté religieuse toujours possible, en une religion utile pour le monde, en une critique théologique bénéfique pour toutes et tous. Mais je crois qu'il n'est pas possible d'y arriver sans l'amour du prochain que tu inspires à toutes et tous et qui reste si difficile à vivre réellement. J'ai foi en la bonne volonté de celles et ceux qui sincèrement cherchent à dire l'indicible de ta présence à leur côté. Je crois en Jésus, qui est un frère pour moi et qui est un prophète pour d'autres. Et je n'affirmerai pas que j'ai raison contre eux, car ni eux ni moi ne pouvons prouver que nous avons raison quand nous parlons de toi. Mais toujours, j'affirmerai que nous avons raison de chercher ensemble, même dans les langues différentes de foi, pour trouver ensemble un chemin vers toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Ce matin, dans cette thématique si particulière de toute cette tradition mystique, je vous invite à partager la lecture de la Genèse. Au chapitre 32, versets 23 à 33, avec cette rencontre étonnante de Jacob avec un étrange personnage qui se battra toute la nuit avec lui. Jacob se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » L'homme reprit « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Penuel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Penuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche, au tendon. Je vous invite, après ces manifestations de kinésithérapie, à chanter ensemble dans Louanges et prières le numéro 400. Je vous invite à la prière. Éternel, Bénis notre lecture et notre écoute. Bénis les mots qui seront dits sur cette rencontre que chacun dans sa vie peut vivre avec toi, sans savoir parfois que c'est toi qu'il rencontre. Éternel, permets que nous soyons attentifs aux signes que tu nous donnes et permets que nous puissions sans cesse être attentifs à la foi de nos frères et sœurs, si singulière parfois, si différente de la nôtre, et pourtant avec qui nous sommes en communion. Amen. Cette histoire de combat nocturne ressemble à un combat intérieur et cultive un mystère quant à l'identité des combattants. Figure de l'expérience mystique, le combat intérieur nous fait comprendre comment l'identité de Jacob se fonde en Dieu pour devenir Israël, mais aussi comment Dieu se fait connaître tout en ne disant jamais son nom. Le protestantisme a quelques réticences à prendre en compte la part mystique de toute foi. Pourtant, le protestantisme est né d'une réforme avant tout spirituelle, et l'on pourrait même dire d'une expérience spirituelle d'un moine qui s'angoissait pour son salut et donc d'une expérience mystique. Le motif du combat intérieur et du passage par les ténèbres pour trouver enfin la paix avec Dieu n'est pas étranger à la tradition protestante. Et l'on peut constater que tous les ingrédients qui favorisent une relation mystique à Dieu sont réunis dans la structure même de cette confession qui promeut la lecture personnelle de la Bible sans le poids de l'autorité d'un magistère, qui met en avant la relation directe à Dieu sans le secours de l'Église comme intermédiaire, et qui, avec le sacerdoce universel, nie toute possibilité de hiérarchie entre les croyants. Le protestantisme, par son caractère très personnel, est la confession sans doute la plus adaptée au mysticisme parmi les confessions chrétiennes, car il s'agit toujours de la vie intérieure de chacun. Une catholique très connue et très mystique, Madame Guyon, autrice de La Perle évangélique, œuvre majeure de la littérature mystique, l'avait bien noté. Elle écrit « Ô mes chers protestants, c'est à vous que l'esprit intérieur s'adresse, cet esprit d'adoration en esprit et en vérité, cette prière digne de Dieu, ce culte intérieur, cet amour pur, si rebuté, de notre nation et de notre peuple. » Elle parle là de l'Église catholique. « C'est à vous qu'il s'adresse pour être reçu. C'est en vous et par vous que Jésus-Christ le fera fructifier. Cette adoration en esprit et en vérité, cette prière parfaite, cet amour pur, vous demande retraite chez vous. Et pour cause, vu les persécutions de son époque, c'est évident. Il vous va chercher à l'exclusion de bien d'autres, afin que vous le logiez dans votre cœur. Recevez-le, et que par votre moyen, il soit à une infinité de cœurs. Voilà ce qu'elle écrit dans De la vie intérieure. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de mystique ? Michel Cornuze écrit dans son livre « Le protestantisme et la mystique » « On peut définir la mystique comme une recherche personnelle d'union avec Dieu par une démarche de détachement intérieur. Il s'agit donc bien d'une quête, d'une recherche ou d'une mise en route sur une voie spirituelle. La mystique ne se situe pas d'emblée du côté des réponses, mais elle est plutôt un questionnement radicalisé. » Sans doute est-ce cette radicalité de l'indépendance de la recherche qui a inquiété l'institution de l'Église à toute époque, qui voyait échapper le fidèle obéissant au profit d'une contemplation intime et intérieure que rien ni personne ne pouvait plus contrôler. Mais comme nous n'avons pas ce problème de magistère dans notre Église, il est bon de se demander ce que nous pouvons faire de cette part mystique qui nous trouve tournée vers la connaissance d'un Dieu qui, malgré toutes les pages des Écritures, ne se laisse pas trouver si facilement. J'ai eu d'ailleurs toutes les peines du monde pour trouver un épisode biblique qui relate cette intimité spirituelle avec ce que, dans l'ignorance d'une définition satisfaisante, on pourrait appeler le divin, le transcendant, le tout autre. Il est d'ailleurs notable de voir que seul le Cantique des Cantiques et les passages qui racontent la passion du Christ ont été repris comme base des écrits mystiques, souvent dans la tradition catholique et donc dans les écrits les plus connus. Il faut dire que ce sont des textes bibliques qui permettent de parler de l'union de l'âme du croyant avec le Christ plutôt qu'avec Dieu. Et c'est une particularité de la mystique chrétienne que de passer très très souvent et presque exclusivement par Jésus et non pas directement par Dieu. Albert Schweitzer décrit ainsi la rencontre mystique avec Jésus telle qu'il peut la décrire. C'est comme un inconnu sans nom qui vient vers nous, comme en son temps, sur les rives du lac de Tibériade. Il s'était approché de ces hommes qui ne savaient qui il était. Il nous a dit, il nous dit la même parole qu'à eux, « Toi, suis-moi » et nous met en face des tâches qu'il nous appartient en son nom d'accomplir à notre époque. Il commande à ceux, sages ou hommes simples, qui lui obéiront. Il se révélera par la paix, l'action, les luttes et les souffrances qu'ils vivront en communion avec lui, et c'est comme un mystère ineffable qu'ils apprendront qui il est. Il écrit ça dans Humanisme et mystique. Nous retrouvons l'inconnu, le mystère de la nuit, et enfin la révélation, comme dans l'épisode du combat mystique de Jacob. C'est dans le lieu particulier d'un passage au gué de la rivière Yabok que se déroule cette nuit mystérieuse. Jacob, le frère jumeau d'Ésaü, a peur. Il a usurpé son droit d'aînesse à Ésaü il y a 20 ans. Les deux frères ne se sont pas revus et voilà que pour aller vers la terre promise, il faut passer à gué cette rivière à l'est du Jourdain et inévitablement rencontrer le frère guerrier. Car Ésaü est un chef de troupe armée qui se déplace pour piller et prendre ce que les éleveurs nomades ont réussi à réunir. Or, Jacob a beaucoup de bétail. Il a 2 femmes, des enfants, des servantes, ainsi que toute une maisonnée et des bergers qui n'ont rien que leur vie pour lutter. Jacob, Yabok, l'auteur de cette tradition de la nuit obscure, a joué sur l'anagramme qui semble lier à jamais le personnage au lieu où son destin va s'accomplir. Jacob, celui qui talonne en hébreu, est le jumeau né en deuxième, celui qui a dû s'accrocher au talon de son frère pour essayer de gagner la course à l'élection. Élection d'une mère, Rebecca, qui le préférera toujours, quitte à l'aider à tromper son frère et son père pour devenir l'aîné. Élection d'un père aussi devenu aveugle et qui ne le voit pas usurper son droit. Élection enfin, parce que Jacob finira, après ses tromperies, sa fuite chez Laban, qui lui fera payer cher cette vulnérabilité et son amour pour sa fille deuxième-née, Rachel. Là encore, problème de droit d'aînesse chez les deux sœurs, mais au féminin cette fois-ci. Il devra épouser l'aînée, Léa, pour avoir la cadette, Rachel. Dans l'Orient ancien de la Bible, la gémellité est un thème récurrent pour parler de la quête d'identité et de la violence. Les plus vieilles mentions de ces doubles se trouvent dans les grands mythes de Sumer, et on en trouve une trace dans l'épopée de Gilgamesh qui trouve son double en la personne de Enkidu et peut user de violence sans retenue avec lui, car il est dans la puissance de l'indéterminé et du chaos. Dans la gémellité de Jacob et d'Ésaü, les deux frères sont empêchés tour à tour dans leurs désirs par le jumeau, toujours là, toujours empêchant, et donc le double qui fait obstacle. L'indifférenciation des deux frères permet de tromper le père et la violence va naître de ce conflit, qui est en fait un conflit d'existence. Lequel a le droit d'être là, lequel est béni ? Comme si le chaos originel n'avait jamais été enfin séparé, défini par des contours clairs. Les deux frères se gênent mutuellement. Ils ne peuvent pas prendre leur véritable place chacun. Pour trouver leur identité, il faut qu'ils soient séparés. C'est ce qui va se passer dans cette nuit au Yabok où Jacob va bientôt retrouver son frère le lendemain et retomber dans l'indifférence gémellaire. Il a peur. Il sait que de nouveau il faudra combattre le frère pour trouver sa place. De nouveau, il craint la violence. C'est dans un endroit double aussi que se passe le passage initiatique, entre deux rives, entre deux eaux inquiétantes où résident, pour l'Orient ancien, les forces de mort ou les forces de sagesse selon ce que l'on peut en tirer. Alors, comme un tiers qui permet la séparation, un être mystérieux vient combattre Jacob. Yabok, en hébreu, veut dire « celui qui se vide ». Jacob va-t-il se vider de son identité de trompeur, de frère qui cherche son chemin, pour trouver enfin sa vocation ? Il ne peut rester pour toujours celui qui talonne. Dans le combat mystérieux qui dure jusqu'à l'aurore, Jacob sera identifié à celui que Dieu protège, Israël. Entre séparation et définition, le peuple de Dieu ainsi identifié à un homme qui a lutté pour trouver sa place peut exister avec la descendance des 12 tribus qui naîtront de Jacob Israël. Dans cette nuit obscure qui ne laisse pas Jacob reconnaître le lutteur qu'il affronte, le texte hébreu dit qu'un homme, pour l'arrêter, se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Ainsi, si c'est Dieu qui combat contre Jacob, alors lui aussi aura été changé, car il vient se rouler dans la poussière avec l'être humain Jacob. La question de l'identité de Dieu se pose en même temps que celle de Jacob. Quel est le Dieu de Jacob ? À l'issue de cette nuit étrange où Jacob semble s'être battu avec lui-même autant qu'avec un tiers venu le séparer de sa confusion gémellaire, les deux frères vont se retrouver et contre toute attente, Ésaü viendra à la rencontre de Jacob et le prendra dans ses bras. Puis ils se sépareront enfin pour vivre leur propre identité. Jacob est devenu alors Israël. Il a une hanche d'émise et sa claudication devient le signe visible de la bénédiction qu'il aura dû arracher de haute lutte à cet étranger qui ne se laisse pas connaître autrement que dans une nuit obscure. C'est sans doute cette obscurité qui a inspiré un sentiment de rejet aux protestants envers la part de foi mystérieuse. En effet, c'est un Dieu révélé que prêche dès ses débuts la Réforme et non l'image que l'on ne peut reconnaître d'un Dieu qui ne se ferait pas connaître. Ainsi, la Réforme a encouragé la critique personnelle des textes bibliques et donc l'irrationnel n'a pas vraiment sa place dans cette Réforme. Il ne faut pas que le caché vienne s'immiscer dans la relation de l'être humain à Dieu. C'est un Dieu qui parle et se fait connaître que les protestants ont voulu annoncer. Il n'en reste pas moins que Dieu reste inconnu à toutes les religions et toutes les confessions et que la théologie négative parcourt toutes les traditions de foi. C'est cette ignorance de l'identité de Dieu qui nous rassemble sans doute plus sûrement entre religions que nos affirmations dogmatiques et spirituelles pour dire qui il est. La reconnaissance de notre ignorance concernant Dieu nous permet d'entrer dans un dialogue honnête, fécond, où chacun sait, dès l'entrée, que personne ne peut affirmer qu'il détient la vérité touchant Dieu. Cette inconnaissance, qui n'est pas irrationnelle mais proprement mystique, est la base d'une éthique dans laquelle chaque identité peut exister sans avoir à la prouver par un savoir de soi ou un savoir du Dieu auquel il croit. Albert Schweitzer s'appuiera d'ailleurs sur cette éthique de la docte ignorance qu'il reprend au mystique mathématicien Nicolas de Cuse pour fonder sa vision éthique. Il écrit « La mystique éthique ne cherche pas à comprendre pourquoi l'esprit universel prend connaissance de lui-même dans le pauvre esprit humain. Elle s'en tient humblement à la constatation que le pauvre esprit humain communie par l'éthique à l'esprit universel et trouve dans cette communion richesse, joie et paix. Sans doute, la foi de chacun touche-t-elle à la recherche d'identité, comme le montre l'épisode du combat où les mots mêmes, Jacob et Yabok, se reflètent en miroir. Cette recherche trouve sa paix dans la rencontre avec ce tiers au-delà de nous, un tiers que l'on appelle Dieu, bien qu'il soit inconnaissable, et qui communie avec notre âme tout en ne disant pas son nom. Cette rencontre calme toute peur et toute envie de violence pour s'imposer et exister. On comprend alors l'importance de la part mystique qui existe dans la foi de chacun. Car cette paix permet de rencontrer l'autre, de communier avec celui ou celle qui devient frère ou sœur au-delà de toute assignation identitaire, sans avoir rien à prouver sur l'identité. Ignorés de nous-mêmes, nous pouvons rencontrer l'autre sur ce qui est le plus intime, sans qu'aucune violence n'ait lieu. Cette dimension éthique de la mystique nous rassemble dans la paix, à condition d'admettre notre ignorance sur Dieu et sur nous-mêmes. Loin de tout fondamentalisme, loin de tout dogmatisme, la mystique nous ouvre des chemins d'amour qui échappent à la raison sans être déraisonnable. Dans le combat intérieur ou l'extase d'une rencontre fondatrice, un Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir à notre tour sans crainte. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter ensemble le cantique 240, les strophes 1 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et c'est notre présidente du Conseil presbytéral, Aurore, qui va nous partager les annonces.
J'étais allée faire des provisions chez les scouts.
D'accord.
Avant que tout le monde vide le stand des scouts. Venez les filles, venez, les éclaireuses. Quelques annonces. Au nom du Conseil presbytéral, tout d'abord, un très très bel anniversaire à toi, Meu.
Bravo. Okay.
Alors j'espère ne pas me faire engueuler par Gérard, je vais te le dire en vietnamien. Chuck Mung Sin Nat, Meu.
C'est bien. C'est approuvé.
Alors pour ce faire, tu auras deux petits gâteaux, parce qu'il y en a un pour Gérard quand même, préparés par les scouts.
Ah.
Et également, parce qu'il va falloir attendre. Nous avons trouvé un calendrier de l'Avent avec des confitures du champion du monde, confiturier de France et de monde. Champion de France et champion du monde. Donc tu auras dans chacune des boîtes, à partir du 1er décembre, un pot de confiture. Et donc, pour attendre, deux petits cadeaux, parce que tu n'as pas le droit d'ouvrir avant le 1er décembre. Vous parlez tout de suite de vos gâteaux ?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est les scouts de l'oratoire et on fait une vente de gâteaux juste à la sortie de l'oratoire pour financer un projet d'été. Merci à tous.
Alors justement, vous pouvez aller acheter des gâteaux pour Meu, mais également pour partager le dessert tout à l'heure, du déjeuner que tu as préparé avec quelques bénévoles, parce que cet après-midi, partage biblique sur la Bible.
Oui, alors c'est un partage biblique sur la lecture de la Bible. En fait, c'est une initiation au, au, aux grands piliers du protestantisme, pour celles et ceux qui arrivent dans notre confession et qui découvrent le protestantisme, qui sont venus peut-être par une expérience mystique, peut-être par simplement la foi qui a besoin de trouver une maison où s'exprimer. Et donc nous avons la possibilité donc de nous retrouver après ce temps de culte pour un repas suivi d'une discussion autour du statut des écritures dans le protestantisme. Et c'est Ademir et Myriam qui ont préparé tout pour ce midi.
Voilà, donc même si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à venir déjeuner. Et si vous avez prévu autre chose pour déjeuner, vous revenez à 13h30 pour la séance. Donc c'est une séance de ce qu'on a appelé caté adulte, parce que beaucoup de nos paroissiens nous ont demandé d'en savoir plus sur le protestantisme et l'initiation au protestantisme. Et aujourd'hui, c'est la Bible, la lecture de la Bible, pardon. Également, quelques autres nouvelles. Lundi 11 novembre, donc, il ne se passera rien. Je crois que j'ai mis qu'il y avait des cours de quelque chose, mais en fait, non, je pense pas. En revanche, nous vous avons invité sur la newsletter. Donc, chaque semaine, le vendredi, nous envoyons par email une lettre de nouvelles et nous vous avons donné des nouvelles, des recherches sur le monument aux morts pour la France de 14-18, qui est juste là, que nous espérons un jour, d'ailleurs, restaurer. Des noms de paroissiens morts pour la France sont sur ce monument et un de nos benjamins a décidé de faire une recherche sur chacun de ces morts. Donc si vous en connaissez, surtout prévenez-le pour qu'on puisse faire une petite fiche d'identité. Et si vous tapez sur notre site, vous verrez que nous n'arrêtons pas d'en retrouver et de retrouver leurs histoires. Donc je vous en prie, n'hésitez pas à participer à cet effort de mémoire de nos paroissiens morts pour la France. Également, dimanche prochain, sachez que nous serons au synode. Alors nous, ces quatre délégués synodaux, en les personnes de Béatrice, de notre trésorier Jean-François, de notre Benjamin Quentin, qui sera là, et également moi-même. Mais nous avons la gentillesse. Pardon, nous avons la gentillesse.
Oui, on est assez gentils.
On est assez gentils. Non, c'est Gilles qui a la gentillesse, Gilles Castelnau, qui prêchera dimanche prochain, qui a déjà préparé d'ailleurs tout. J'ai oublié de te demander sur quoi tu prêcherais. Sur la joie.
Ah, voilà une
donc,
bonne
venez
chose.
Dimanche prochain, puis tu as raison, prêcher sur
besoin.
La joie. Oui, parce que le jour du synode, ça risque de pas être très joyeux. Mais voilà, donc dimanche prochain, Gilles, ici même, je vous remercie. Je crois que j'ai fait le tour des annonces, je regarde tout le monde. C'est le moment des offrandes. Alors, nous sommes en train de préparer avec la pasteur Béatrice Cléromazir et le directeur... je suis fatiguée ce matin. Le trésorier, doit être les confitures, la recherche des confitures. Le trésorier, la lettre d'appel financier. Vous savez que chaque année, nous avons besoin d'à peu près de 1 000 euros par jour pour vivre et aussi pour être solidaires avec la région. Nous venons de faire les comptes à fin octobre. Nous sommes dans la lignée de notre budget, tout se passe bien, sauf que, comme chaque année, nous avons encore 52% à collecter d'ici la fin de l'année, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc vraiment, même si vous n'avez pas encore reçu la lettre, pensez à nous et au fait également pour ceux qui payent des impôts que les dons faits à notre Église bénéficient de 76% de réduction fiscale. Vraiment un grand merci à vous parce que sans cet argent, nous ne pouvons pas faire vivre une parole qui libère. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche et à nouveau à toi, très bel anniversaire. C'est le moment de l'offrande.
Voilà, je vous invite à nous réunir dans la prière. Non, non, vous pouvez vous asseoir. C'est gentil, mais... Éternel, nous te prions pour te dire notre gratitude, notre reconnaissance pour la diversité des expressions de foi. Toutes ces façons étonnantes que tu as de rencontrer chacun, à travers une rencontre humaine, à travers la contemplation d'un lieu particulier sur cette terre, parfois dans les ténèbres d'une épreuve terrible, et d'autres fois dans un amour bien humain qui fait connaître ton amour, dans la naissance d'un enfant, dans le deuil d'un proche. Tu viens à la rencontre de chacun et nous voulons te remettre tous nos chemins de recherche, tous nos lieux de méditation, de contemplation, ces lieux où nous te laissons venir à nous. Éternel, dans ces espaces de conversion, dans ces silences profonds que seul chacun peut connaître pour lui-même, permet que nous puissions te reconnaître. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui se trouvent avec cette foi immense qui les déborde et qui ne trouvent nulle part où poser leur vie, leur existence, pour partager cette foi avec d'autres. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur chemin singulier, que les institutions religieuses ne veulent pas reconnaître et dont elles se méfient souvent. Nous te demandons d'être toujours ceux qui écoutent et qui ne jugent pas le chemin de foi de l'autre, qui communie, mais qui ne rejette pas l'extraordinaire variété de la façon que nous avons de te dire. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont tentés par une radicalisation violente, qui veulent exister dans ce monde, qui veulent trouver une place par le combat et l'écrasement de l'autre. Permets, Seigneur, que ta parole les apaise, les rejoigne et les transforme. Permets que nous ne soyons pas de ceux qui se durcissent en réaction à cette violence, mais que nous puissions continuer notre chemin de paix entre les religions et entre les confessions. Éternel, pour tous ces chemins, éclaire-nous et sois avec nous. Pour tous ces chemins, merci. Et ensemble, nous te disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je
chers amis, je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Mais d'abord, je vous envoie là où vous trouverez d'autres croyants, d'autres personnes qui croient autrement, d'autres personnes qui ont l'audace parfois de dire ce qu'ils vivent intérieurement, sincèrement. Écoutez-les et partagez avec eux cette communion intime que seule la foi peut faire comprendre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui nous rencontre et nous bénit, nous rappelle son amour et vous bénit chacun dans votre foi intime. Amen.